Que se passe-t-il ici au juste ? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues de créateurs support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire.
Bonsoir Karl, quelle belle musique spatiale, universelle, peut-être un pulsar, qui nous vient de SETI, mais on va revenir à notre condition humaine. Comme tu le sais, aujourd'hui nous fêtons les 40 ans de l'explosion d'un réacteur nucléaire en URSS. Maintenant c'est en Ukraine, vous l'avez tous en tête, et bien c'est pas de ça dont on va parler. Nous, direction Fukushima, on va parler de ce qui se passe actuellement, maintenant, sur ce territoire contaminé de Fukushima, avec l'anthropologue Sophie Houdard, qui est directrice de recherche au CNRS. Son enquête anthropologique, ethnographique, va nous permettre de comprendre ce que signifie de vivre dans un monde contaminé par de faibles doses de radioactivité. C'est la question qu'elle se pose depuis l'accident de Fukushima, et tu t'en souviens Karl, il est survenu le 11 mars 2011. Au terme d'une longue enquête ethnographique donc, menée auprès d'un petit groupe de personnes habitant la ville de Towa, à une cinquantaine de kilomètres de la centrale, elle restitue la texture de ce territoire et elle décrit comment, année après année, les repères n'ont cessé de changer. On voit comment les habitants et les agriculteurs cherchent à comprendre leur nouvel état du monde en expérimentant auprès de scientifiques engagés les liaisons et déliaisons qui font leur quotidien. Nous interrogeons donc ce soir Sophie Houdard pour son livre « Ce territoire » qui, comme une pulsation, presque comme une pulsation de pulsar, comme cette musique interstellaire que nous avons en fond de générique. Mais bien entendu, Karl, un peu de musique nippone peut-être.
Nippon ni mauvais. Effectivement, il y aura un titre nippon ce soir. C'est Shoko Igarashi qui va nous proposer un extrait de son premier album sorti chez Tiger Sushi il y a quelques années. Et ce morceau qu'on va entendre, en fait, il contient la voix d'Eliane Radigue, qu'on a perdue l'année dernière, qui était une des grandes dames de la musique d'avant-garde, contemporaine, appelez-la comme vous voulez, française. Et bah voilà, c'est touchant de voir cette jeune artiste qui rend hommage à Eliane. Et à côté, ça fait un peu la touche japonaise pour ce début d'émission.
Bravo, on est dans la tonalité. Vous êtes en compagnie de l'émission du Fictionnaire pendant une heure, c'est Radio Campus Orléans.
Il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire. Ça, c'est pour commencer. C'était cette musique-là et pas une autre.
Je suis en compagnie de Sophie Houdard pour parler de ton nouveau livre qui vient de paraître aux éditions des Mondes Affaires. Le titre, Ce territoire qui comme une pulsation. C'est déjà un titre qui a une forte charge poétique. Ce livre rend compte d'un terrain dans la petite ville de Towa, à proximité de Fukushima. Et à partir de ce terrain, c'est-à-dire un terrain contaminé par la catastrophe de Fukushima, depuis là, comme tu l'écris, commencer à décrire.
C'est effectivement le départ de cette description, ça s'est pas fait tout de suite. C'est précédé par un début d'enquête que j'avais imaginé un peu systématique, qui aurait porté sur la question de la mesure de la radioactivité, c'est-à-dire comment est-ce que l'expérience des personnes dans le département de Fukushima est transformée du fait de cette catastrophe qui a eu lieu donc il y a bientôt 15 ans, le 11 mars 2011, et transformée au point que toutes les actions, les déplacements, etc. soient médiés par des instruments de mesure. Et donc j'avais commencé à regarder ça, en allant d'un point à un autre et en regardant quels étaient les instruments de mesure utilisés, quelle était leur histoire, quel était le rapport que les gens entretenaient avec ces instruments de mesure, etc. Et puis j'ai fait deux ou trois terrains de cet ordre pour prendre un peu aussi moi-même la mesure du territoire impliqué, en fait, concerné. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi, ce qui allait m'intéresser surtout, c'était de regarder ce que faisaient les gens dans leur quotidien. Aussi parce que à mesure que les années passaient, la question de la mesure devenait moins prégnante, en tout cas qu'elle envahissait pas tout le champ de l'expérience, en fait, et que du coup pour moi il est devenu important de trouver un endroit d'où regarder, où me poser, en fait, et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de rencontrer des gens, et notamment cette famille, monsieur et madame Ono, qui sont fermiers, agriculteurs, dans la région de Towa. Et je suis allée chez eux une année, puis je suis revenue l'année suivante, et puis tous les ans, pendant plusieurs années. Voilà. Et du coup, là, on pourrait dire, l'unité de description est toute petite. Il s'agit pas dans le livre de parler de tout Towa. J'ai rencontré un petit lot de personnes, et toujours en partant de la famille Ono, mais que j'ai vu année après année mener une enquête, en fait, hein, pour comprendre ce qui leur arrivait. Et c'est depuis là que j'ai essayé de décrire les choses, en fait.
Alors on peut prendre l'exemple de monsieur Azegawa. Tu écris, comme toutes les personnes que je rencontre, monsieur Azegawa est passé maître dans le maniement des unités de mesure de la radioactivité qui font dorénavant partie du parler et de l'agir quotidien.
Oui, ça c'est vrai au début. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a été très structurant dans l'enquête. Que cette enquête-là, elle était marquée par une temporalité très forte, qui n'était pas résorbable dans l'avant et après catastrophe, l'avant catastrophe et l'après catastrophe. La temporalité, c'est celle qui fait que on prend beaucoup de temps pour comprendre une situation, décrypter un environnement, y remédier, et que l'année suivante, la question s'est elle-même déplacée, parce que la radioactivité s'est elle-même déplacée, qu'entre-temps, il y a eu une saison, un événement saisonnier, quelque chose qui a fait que la radioactivité s'est à nouveau déplacée, qu'il faut rouvrir l'enquête à un autre endroit. Et voilà. Et du coup, Moi, en venant tous les ans au même endroit, en fait, je pouvais pas tellement capitaliser. C'était chaque fois très très différent. Chaque fois, chaque année, réouvrait son lot de questions, en fait. Mais c'était ce que vivaient les gens, effectivement. Voilà. Donc,
qu'on comprenne bien, je te lis à nouveau. Il y a pour la radioactivité des courants et des terrains propices, des canaux où s'engouffrer, des montagnes et des cimes d'arbres auxquels s'accrocher, des cours d'eau à descendre, et que le territoire doit dorénavant être réorganisé de manière que ses déplacements à elle croisent le moins ceux des humains. Mais du coup, c'est compliqué pour les humains.
Ça, c'est une question qui m'a beaucoup occupée au début, mais qui a été très, en fait, lancinante tout le long du terrain. C'est la question de la cartographie, qui, comme la mesure, en fait, on peut cartographier. Et les expériences ont été innombrables, en fait, de comment faire pour redonner une qualité à ce territoire, en fait, qui fondamentalement, du fait de la présence de la radioactivité et notamment de la radioactivité à faible dose, est complètement discontinuée. Voilà. Alors on pourrait dire c'est un gruyère. Le vocabulaire officiel, c'est que la radioactivité, on dit, elle se déplace pas de manière concentrique. Ça, c'était les premières cartes. Elle se déplace, elle forme des taches de léopard. Dans la réalité de l'expérience des gens, ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B, ça va plus être possible d'y aller en ligne droite, que peut-être il va falloir faire des circonvolutions terribles, que peut-être il va falloir apprendre à se déplacer en pointillé, que peut-être il va falloir... voilà. Et cette discontinuité-là, voilà, ça, c'est un des très grands temps, premier temps de l'enquête qui est cette discontinuité spatiale, en fait, qui réorganise aussi la vie des gens, oui, parce que on comprend au bout de 2, 3 ans, 4 ans comment faire avec de faibles doses de la radioactivité dans une rizière, mais reste pendant, on s'occupe d'abord des champs, des rizières, mais reste les forêts, par exemple, tout l'espace forestier. L'espace forestier, c'est pas comme si c'était un bout à part sur une carte. L'espace forestier, c'est le petit bois où il y a le temple juste derrière la maison, puis c'est le petit bois là, puis c'est le petit bois là, et encore là, etc. Voilà. Et donc, tout ça, ça fait des sortes de trouées qui méritent de l'attention. On peut pas donner de l'attention à tout en même temps, et donc la compréhension aussi, elle se fait par... elle se fait par petits bouts. Et voilà, c'est aussi... j'ai essayé de décrire comment les gens eux-mêmes essayaient de retrouver pour eux-mêmes de la continuité, remettre de la continuité à la fois dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et donc, je décris des moments. Hein, il y a des moments qui pour moi été des moments de compréhension d'un coup intense. Hein, mais c'est des toutes petites... Des tout petits épisodes, en fait, comme ce moment où Monsieur Ono, il y a une famille qui rend visite dans la ferme avec des jeunes enfants, et que on voit Monsieur Ono partir dans le petit camion, puis revenir avec les enfants, redescendre du sous-bois derrière la maison avec des champignons dans le t-shirt. Et moi, je d'incompréhension, je comprends pas comment on a pu en arriver là. Je sais très bien que Monsieur Ono sait très bien lui-même que les champignons attrapent la radioactivité, qu'on les mange pas. Je sais qu'on mange plus les champignons. On ne produit plus de shiitake et on ne mange pas les champignons qui viennent du sous-bois. On va pas se promener dans le sous-bois. Je comprends pas d'abord ce geste, et c'est lui-même qui nous explique que évidemment on va pas manger les champignons, que évidemment les enfants vont pas manger les champignons, mais que pour lui, il lui importe que des enfants continuent à avoir cette expérience de ce qui se passe dans un sous-bois quand on est japonais, le rapport à la terre, le rapport à l'humus, le rapport aux champignons, et que il y a eu la transmission d'un geste à défaut de pouvoir manger les champignons, et que c'est par ce petit geste-là qu'il réintroduit de la continuité entre les générations, sur un territoire, voilà.
Oui, parce qu'à travers Monsieur Azegawa, par exemple, tu nous expliques qu'au Japon, les personnes plus âgées ont un lien au sol très fort. Le corps et le sol dépendent l'un de l'autre. Il y a même M. Nemoto qui te dit « le paysage, c'est nous ». Et ça permet de comprendre pourquoi des personnes sont restées sur ce terrain contaminé. Et tu emploies bien cette belle métaphore de tache de léopard pour bien faire comprendre qu'il y a rupture dans la continuité. Que si tous les gens quittent les lieux, qu'est-ce qui va se passer pour le paysage ? Et c'est cela aussi qui peut expliquer la manière dont M. Ono arrive avec les champignons et qui t'a paru si bizarre et que tu cherchais après à mieux comprendre.
Il y a plusieurs choses dans cette question du paysage. Et là, pour moi, ça a été effectivement, c'était un point d'arrêt parce que j'arrivais pas à comprendre quand, par l'intermédiaire d'un collègue, Keiichi Ishii, on va rencontrer ce monsieur Nemoto qui, donc, à une maison qui est à quelques centaines de mètres de ce qui était alors la zone interdite. On pouvait pas passer. Enfin, il y avait une route qui était barrée. Monsieur Nemoto avait sa ferme là, ses champs, ses rizières, et il est lui pendant des années dans une zone qu'on dit d'habitat par intermittence, si tu veux. Et donc, du coup, il peut venir passer 2 heures, 3 heures dans sa maison, aérer, aller s'occuper de son champ, mais il peut pas y dormir. Donc, voilà, c'est une vie par intermittence. Et ce qu'il me raconte du paysage, c'est-à-dire les efforts qu'il fait pour entretenir le paysage, dont il dit effectivement, et ça j'avais entendu cette expression ailleurs, c'est le paysage, on considère que c'est le paysage maternel, donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre du viscéral en fait, dans le paysage lui-même. Et donc dans l'entretien de ce paysage, moi je me dis où est la valeur de cette chose d'un paysage qui ne peut plus être habité et donc qui ne peut plus être regardé non plus. Comment est-ce que on se motive pour continuer à l'entretenir ? Pourquoi est-ce que ça compte de continuer à l'entretenir ? Et c'est aussi sur cette question de la continuité dans les choses. On n'abandonnera pas le territoire. Et on ne l'abandonnera pas, c'est pas une question de... C'est mal dit, je le dis mal. C'est pas abandonner le territoire au sens de pendant une guerre on garde le front. C'est pas une métaphore guerrière. C'est une métaphore on n'abandonne pas quelqu'un derrière soi. Voilà. Et ce quelqu'un, il se trouve que c'est le paysage et que si on l'abandonne, si on le laisse à lui-même, la génération d'après pourra pas y revenir, la génération suivante encore moins, etc. Et que donc cet espace-là a besoin d'un soin. C'est aussi ça renvoie au rapport qu'on entretient au Japon avec ce qu'on appelle la nature et qui est valorisé dans sa culture en fait. Dans tous les sens du terme, et du coup, tous ces gestes-là vont compter. Voilà. Et donc, on assiste effectivement le long de ces routes, dans des villages abandonnés, à juste l'entretien des bordures, par exemple, des talus, des bordures. Voilà, on a du mal à comprendre. Mais aussi parce que les gens disent, ça choque, ça fait mal de voir un paysage, des rizières abandonnées, par exemple, ça fait mal. Et donc tout ça ne compte pas pour rien, voilà. Tout ça ne compte pas pour rien. Et c'est pas parce qu'on va pas pouvoir y vivre pendant très longtemps que peut-être on pourra pas y retourner y vivre du tout, qu'il faut laisser à lui-même ce paysage qui mérite de l'attention et du soin, quoi.
Et puis peut-être dire aussi que cette région de Fukushima était pour le Japon une région agricole et notamment une région pionnière en agriculture biologique. C'est peut-être là aussi l'aspect, accablant de cette catastrophe, c'est que c'était une région où il y avait vraiment une agriculture biologique très importante et les personnes qui y restent vont continuer l'activité agricole. J'aimerais qu'on parle de cette association du village biologique. Comment ils ont mené un travail cartographique, puisqu'on a affaire à des taches de léopard comme territoire qui est plutôt troué par la radioactivité, et comment aussi ils testent les produits destinés à la vente directe pour continuer à faire cette pratique agricole, pouvoir la vendre et pouvoir la manger.
Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses et j'espère que je ne vais pas perdre le fil en cours de route. Il y a une chose qui est que, en réalité, une des raisons pour laquelle à Towa, les gens vont pas mal s'en sortir et donc vont être en capacité de relancer l'agriculture sans mettre leur santé en danger, c'est précisément parce que ils avaient à cet endroit-là des pratiques de culture agricole soucieuses de l'environnement. Et qu'ils étaient déjà, depuis plusieurs décennies, dans une pensée systémique. C'est évidemment pas un mot qu'ils ont même besoin d'utiliser, mais ils ont une pensée de leur environnement comme une totalité dans laquelle, encore une fois, il faut prendre soin de toutes les petites des petits liens. Et en fait, ce lien là, cet attachement, va compter dans le fait qu'on s'en sort pas mal avec cette radioactivité, c'est-à-dire que, au risque de choquer, c'est comme si les gens, à un moment donné, les personnes ont très vite compris en fait que la radioactivité, on s'en débarrasse pas. Donc il y a des chantiers de décontamination, on peut faire baisser la radioactivité, mais la radioactivité, quand elle est plus quelque part, elle est ailleurs, voilà. Et donc dans les endroits avec de la faible radioactivité, c'est particulièrement le cas parce qu'on peut pas enlever voilà. Et donc à Towa, les gens ont fait le choix de ne pas, par exemple, enlever 5 ou 10 cm de terre de toutes les terres agricoles, et ils ont plutôt amendé, donc plutôt que d'enlever, ôter, extraire, ils ont amendé les sols avec un minerai qui s'appelle la zéolite, mais aussi avec le compost, qui était une pratique, c'est un commun, qui était déjà à l'œuvre. À Towa, il y avait déjà cette coopérative agricole extrêmement forte, ce compost collectif. Et il se trouve que ce qu'il y a dans le compost, notamment le potassium, hein, et d'autres choses, va agir comme un fixateur. C'est-à-dire que les radioéléments vont préférer s'accrocher à ça et vont pas remonter dans le plan de riz. Et voilà. Et donc on peut, le riz sort non détecté dans les machines. Voilà. Ça, c'est un autre aspect, c'est qu'effectivement, pendant des années, par exemple, chaque sac de riz produit dans chacune des parcelles de chacune des coopératives, enfin des fermes, etc. Chaque sac a été mesuré, passait un détecteur comme un scanner, en fait. Et donc, avant la mise en vente, avant la consommation, chaque sac est mesuré. Les légumes, enfin tout. Et tout est mesuré. Donc là, l'enquête, elle est très vite, elle prend un tour vertigineux parce que il faut tout, et on se rend compte que suivant les légumes, la capacité d'un légume ou de tel légume ou de tel fruit à capter et à attraper la radioactivité et la garder dans ses feuilles est différente, voilà. Et donc, il vaut mieux manger des mini concombres ou des mini tomates plutôt que des choux ou des salades ou des pommes de terre. Tous les légumes racines pendant des années, on n'en fait absolument pas. Enfin, pour d'autres raisons aussi, qui sont complexes aussi, puisque les légumes racines sont les légumes préférés des sangliers qui, du fait du changement de population, des proportions de population humaine, non humaine, etc., les sangliers, ils en profitent, et du coup, les légumes racines, c'est pas une bonne idée non plus à ce titre-là, parce que autrement, on a trop de sangliers. Voilà, donc on est dans les gens eux-mêmes ont conscience d'être du fait de la présence de cette radioactivité à faible dose, ont conscience d'être dans une écologie qui est extrêmement complexe. Et ils font accueil, je disais, au risque de choquer. Ils n'utilisent pas ce terme-là non plus. C'est pas comme s'ils avaient été contents de ce qui leur arrivait. Mais par contre, ils disent, bon bah voilà, la radioactivité, elle est là. Notre but, c'est de trouver les manières de la stabiliser quelque part, parce qu'on préfère savoir où elle est et qu'elle bouge plus, et de se dire bon bah voilà, ça fait partie des existants maintenant de notre chez nous, de notre territoire. On va le compter comme un existant parce que si on trouve un moyen de s'en débarrasser, il y a eu des tas d'expériences à toutes les échelles, dont certaines qui nous ont été racontées avec beaucoup d'humour en fait. Si on fait des expériences et qu'on arrive à se débarrasser de la radioactivité ou faire baisser le taux de radioactivité, la question qui vient tout de suite après, c'est bah alors elle est partie où ? Elle est plus là, elle est plus dans mon champignon. Mais elle est partie où ? Elle est dans l'eau, elle est chez mes voisins, elle est qui ? Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Et donc on préfère savoir où elle est. Voilà.
Est-ce que le concept d'hyper-objet formé par Timothy Morton, est-ce que c'est un concept qui va être utile pour appréhender ces radionucléides qui sont là ? Et là, tu viens bien de l'exprimer. Là, si elles ne sont plus là, c'est qu'elles sont parties ailleurs. Mais elles sont toujours là. Elles se sont juste déplacées ailleurs.
Allez.
Elles sont parties ailleurs, mais elles reviendront juste après. Un autre petit morceau, peut-être.
Tout à fait.
Japonais, toujours.
Eh ben non, voilà, c'est là
mais
que ça s'arrête.
Mais partir ailleurs, alors.
Ouais, tout à fait encore. Avec Lyra Pramuk, artiste qui en est à son troisième album, je crois. Celui-ci s'appelle I'm Noel. C'est sorti sur 7K. J'avais pas tout à fait saisi que Cassette, le label allemand historique, avait une sous-division qui s'appelait 7K avec le petit point d'exclamation à côté, qui a l'air manifestement un peu plus arty, un peu plus sur l'expérimentation sonore et ce genre de choses. Et ça tombe bien parce que Lyra, elle nous propose ce genre de musique. C'est sa voix qui est beaucoup utilisée, vous allez voir, en surcouche, en répétition. On est vraiment sur la musique un petit peu... c'est réel, je pense qu'on peut le dire. Et puis, c'est renforcé avec des cordes, des beaux arrangements de cordes. C'est super. Voilà, allez, on écoute.
Émission du Fictionnaire, Radio Campus Orléans.
Thank you.
Oui, complètement. Ça a été la lecture de Hyper Object. Pour moi, a été une lecture importante à un moment donné. Déjà parce que ça relie ce phénomène, ce qui arrive avec une catastrophe nucléaire à d'autres types de phénomènes comme le changement climatique et d'autres gros phénomènes, on va dire. Et puis là où ça a été important pour nous collectivement, parce que une part du travail s'est faite dans un collectif qui s'appelle Call It Anything, ce qui est une formation hybride où des gens de plusieurs horizons se sont retrouvés pour notamment, on est allé ensemble dans la région de Fukushima, on a organisé ce qu'on a appelé des balades à Fukushima de manière un petit peu provocatrice. Et là, le concept de hyper objet est intéressant parce que Timothy Morton décrit très bien le type de relation dans laquelle ça nous met. Les hyper objets, ils se reconnaissent aussi par notre incapacité à stabiliser une relation par rapport à eux. C'est-à-dire, c'est un in et out, c'est un on et off, et c'est toujours, on est pris, repris, dépris, etc. Et dès qu'on est allé dans la région de Fukushima à plusieurs, on a alors multiplié par autant de personnes qu'il y a, on a intensifié cette expérience qui consiste à perdre à un moment donné de vue la raison pour laquelle on est là. Je rappelle, Towa, c'est on est à une cinquantaine de kilomètres de Fukushima Daiichi. Les gens n'ont pas été déplacés. Je l'ai pas dit depuis le début, mais c'est ça qui est fondamental de comprendre. Il y a d'autres endroits où les gens ont été déplacés. À Towa, non, parce qu'on est juste en deçà des seuils de déplacement, en fait, d'évacuation. Et donc, en fait, on est dans un endroit qui est très beau et on n'est pas non plus sur la côte. Donc, l'endroit n'a pas été endommagé ni par le tsunami, ni par le tremblement de terre. Et donc, il arrive qu'on marche dans la campagne et que, simplement, on profite du fait de marcher dans la campagne. Et donc, on oublie la raison même pour laquelle on est venu. Donc, il a fallu qu'on s'équipe de tas de types de dispositifs, et le compteur GGR pour nous a compté parmi ces dispositifs pour revenir à cet endroit-là et se dire ok, qu'est-ce qui se passe, comment je suis à nouveau dedans, etc. Et c'est vraiment ce que décrit Timothy Morton. On peut pas être en permanence dans le changement climatique. On ne peut pas avoir conscience en permanence du changement climatique. Et donc, il y a des moments où on quitte cette sensation-là et on est repris aussi vif. C'est un choc à chaque fois. Et dans le type de situation dans lesquelles on s'est retrouvé, c'est de ça dont il s'agit. À chaque fois, il fallait se redire. À chaque fois, on perdait de vue, puis on revenait. Voilà.
Alors, parlons de ces compteurs GGR. Parce que c'est le moyen, l'outil de médiation qui va permettre d'évaluer si là il y a beaucoup de radionucléides ou s'il y en a moins. D'autant que s'ajoute à cela, pour pouvoir mesurer la quantité de radionucléides, que bien, de toute façon la Terre, il y a aussi une radioactivité naturelle et que cela complique l'affaire, ça complexifie beaucoup plus aussi l'affaire des habitants. Et alors, comment ils font avec ces compteurs, c'est-à-dire ces moyens de mesurer ces particules invisibles, parce que on comprend avec ton enquête que petit à petit, ils en ont plus besoin ou ils n'ont plus envie d'avoir affaire à cet outil de médiation qui leur permet de savoir où ça se trouve. Qu'est-ce qui se passe avec ce moyen de médiation ?
Alors, ça ramène à la question de la mesure, qui est une question extrêmement compliquée pour le coup, parce qu'il y a le compteur GGR qui est une instrumentation individuelle. Donc les gens s'équipent, sont équipés de compteurs GGR qui portent sur eux, ils se déplacent avec le compteur GGR. Le compteur GGR produit une mesure que, on va dire, c'est très difficile de stabiliser la mesure qu'on a avec un compteur GGR, donc il faut pas marcher trop vite, on nous avait expliqué. Autrement, ça marche pas. Et puis, voilà, ça permet d'avoir une certaine idée de la teneur de l'environnement dans lequel on se déplace. C'est pas le seul instrument qui est utilisé dans la région de Fukushima, loin de là. Il y a eu beaucoup de choses, mais en vis-à-vis, disons, du compteur Gégère, il y a des stations de monitoring qui sont des points fixes. Alors là, c'est d'une très grande technicité. Hein. C'est des instruments qui valent très cher, qui sont installés par le gouvernement. Je peux pas développer, mais c'est une très longue histoire et je m'y intéresse aussi parce que ces stations de monitoring, elles viennent en droite ligne de Hiroshima et Nagasaki, de cette expertise acquise après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Et voilà, mais ces stations de monitoring, donc c'est des points fixes dans l'environnement, sur la place de la mairie, devant le supermarché, près de l'école, etc., qui sont donc de très grandes performances technologiques, mais qui sont fixes. Et donc les gens disent, mais c'est en fait la radioactivité, ça bouge. Et puis effectivement, ces points fixes, ils attrapent aussi les rayons qui viennent du soleil, mais comme les compteurs Gégère. Voilà. Donc les gens vont doubler ces dispositifs. Et c'est surtout que concernant le compteur Gégère, en fait, il est très utilisé au début, mais ce dont les gens vont faire l'expérience, et on va faire l'expérience après eux, en nous équipant nous-mêmes de compteurs Gégère, c'est que c'est très dur d'avoir un rapport objectif à un environnement dans lequel on bouge avec un compteur Gégère, parce que la mesure n'arrête pas de bouger elle-même. Et donc, si on le tient dans la main, à hauteur de la poitrine, ça donne un chiffre. Si on le pose sur le sol, ça donne un autre chiffre. Et puis, si on avance de 2 mètres, ça donne un autre chiffre, etc., etc. Donc, nous, on l'a vécu sur des très courtes périodes, mais voilà, il n'y a pas besoin de... C'est pas compliqué d'imaginer ce que ça produit dans le quotidien. Voilà, on est comme équipé d'un instrument, mais qui n'arrête pas d'annoncer des choses qui peuvent varier et qui, du coup, n'offrent pas de prise aux personnes de prise réelle, en fait, pour prendre des décisions. Et donc, ce que je vois, c'est que au bout de 2 ans, en fait, le compteur Gégère, enfin, puis ça rend dingue d'avoir tout le temps son compteur Gégère sur soi. Et donc c'était hyper important pour les gens de l'avoir, parce que d'un coup ça veut dire que d'un coup on acquiert la conscience qu'on se meut dans quelque chose d'épais, de très épais, avec voilà, et en même temps ça n'offre pas une prise vraiment pour l'action, voilà. Et donc après ce dont je me rends compte à un moment donné, c'est qu'en fait les gens, j'étais focalisée sur cette question de la mesure, mais en fait ce que font les gens, c'est qu'ils regardent, ils observent, et donc ils se comportent plus comme des éthologues. Ils regardent, ils essayent de comprendre comment la radioactivité se comporte, à quoi elle s'accroche, comment elle circule, où elle se pose, à côté de quoi elle aime être, voilà. Et donc ils développent plutôt cette compétence-là, ils aiguisent ce regard, cette capacité à se dire, bon alors, ok, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, etc. Donc, plus comme des éthologues.
Parce que ces habitants qui habitaient déjà Towa, donc ils étaient déjà sur place, ils connaissaient bien les lieux, et soudain ils ont affaire à une nouvelle entité, une entité étrangère et une entité technologique qui les envahit, mais d'une manière très très bizarre, hein, qui occupe l'espace qu'ils occupaient. Si on prend un peu des termes d'anthropologie de Bruno Latour, ce sont des... Ouais, peut-être qu'ils vivaient l'espace aussi un peu en tant que moderne. Je ne sais pas si c'est très bien de qualifier ainsi des Japonais. Peut-être pas, mais en tout cas, ils se sentaient quand même habiter le lieu de manière puissante, comme des humains, et soudain arrive une entité encore plus puissante qu'eux, une entité technologique. Et ça me donne l'impression que les habitants de Towa sont obligés de rencontrer le nouveau lieu qu'ils habitent. C'est toujours ce lieu-là, mais il s'est fait envahir par des entités technologiques. Ils sont obligés de s'occuper avec ce lieu et de l'occuper nouvellement de manière inédite, parce que la présence de ces radionucléides ont transformé le lieu, continue en plus de le transformer, rendant ce lieu non fixe, lui faisant perdre ses caractéristiques fixes. Donc, si je prends des termes du coup que j'essaye de développer, ils sont dans un processus continuel de rencontre rencontrologique avec pourtant le lieu qui leur était le plus familier. Et nous avons parlé, et tu as bien parlé des paysages. Les paysages n'ont pas changé, ce sont toujours à peu près les mêmes. Mais il y a une force invisible qui est présente et avec laquelle ils ont à faire notamment des rencontres pour pouvoir habiter ce lieu avec elle.
Oui, bah c'est passionnant de le formuler comme ça. Là, je pense que c'est ma collègue et amie Mélanie Pavie qui est cinéaste et qui fait partie du collectif Colitennissing qui en parlerait le mieux parce que elle est venue, on est allé ensemble plusieurs fois à Towa et dans la région de Fukushima. Et un de ses projets, c'était un de ses points de départ, elle, c'était la question de la nostalgie. Comment est-ce qu'on peut éprouver de la nostalgie? Il y a un concept au Japon pour parler de la nostalgie et c'est très lié au fait d'avoir quitté son pays natal. On éprouve de la nostalgie à l'endroit d'un territoire qu'on a quitté, voilà, et qu'on a connu enfant historiquement, c'est ça. Et la question de Mélanie, c'était à l'inverse de se dire qu'est-ce qui se passe? Quel est le type de sentiment nostalgique qu'on développe quand on ne bouge pas du territoire qu'on a toujours connu? Les gens, monsieur et madame Ono, ils ont grandi là, leur famille était là avant eux. Enfin voilà, ça fait plusieurs générations qu'ils sont dans la région. Comment est-ce qu'on est rendu nostalgique d'un lieu qui pourtant n'a pas cessé de se ressembler? Encore une fois, voilà, c'est pas, ça saute pas à cet endroit-là, ça saute pas au regard que quelque chose, qu'une présence est là. Voilà. Et donc eux-mêmes ont activé, puis ils ont accepté avec Mélanie d'activer des récits en fait pour restituer en fait un grain très petit les choses qui ont pu changer du fait de la catastrophe. On parle pas, c'est pas forcément des questions de vie ou de mort. Ne plus pouvoir aller en forêt pour chercher des champignons, ou alors pouvoir y aller, ramener des champignons mais pas les manger, pouvoir continuer à chasser mais pas manger la viande qu'on ramène. Toutes ces petites choses-là, c'est comme des petites disruptions, enfin des petites... c'est abîmé, quoi. Voilà. On a un rapport à l'espace et au temps qui est abîmé. Et c'est des petites choses qu'on a perdues, que les gens essayent de récupérer. Là, dans les dernières années, c'est un peu vers ça que le livre s'achemine, en fait. C'est la question des forêts. Et on voit la famille Ono qui finit par investir ce lieu-là en disant il faut faire quelque chose, il faut reprendre le contrôle des forêts, reprendre les contrôles des forêts qu'on a laissées aussi sans soin bien avant la catastrophe de Fukushima, parce que cette catastrophe-là, elle vient et elle s'inscrit dans la continuité de beaucoup d'autres événements. Il y a eu des exodes ruraux, il y a eu des propriétaires qui ont acheté à un moment donné des forêts parce qu'il y avait une exploitation forestière, des plantations intensives dans les années 50, 60. Et puis tout ça a été abandonné. On achète maintenant le bois, on le fait venir d'ailleurs. Et puis les forêts se sont retrouvées sans... On n'a plus pris soin des chemins communaux, on n'a plus pris soin des... Mais et c'est embêtant quand il y a eu une catastrophe nucléaire, parce que d'un coup, ce manque de soins-là fait qu'on se retrouve avec un environnement forestier qui devient un bio-cumulateur énorme, en fait. Voilà. Et donc, il faut... et Monsieur Ono prend lui-même l'initiative de rassembler des énergies pour dire bon ben maintenant il faut qu'on s'occupe des forêts, il faut que à nouveau on retrace des chemins, que à nouveau on déblaye la forêt, que à nouveau on remette de la diversité dans les essences d'arbres, en considérant l'écorce des arbres. Enfin bon, on descend vraiment dans toutes les questions qui ont dû être considérées du fait de la présence de ces entités invisibles. C'est comme une descente dans l'infini des relations, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça très vertigineux. Et les gens qu'on a suivis le décrivent eux-mêmes comme très vertigineux et aussi un peu comme excitant. Et donc la difficulté aussi pour moi du point de vue de l'enquête et du point de vue de l'écriture, c'était de trouver une écriture qui fasse honneur aussi à cet aiguillon-là, cette excitation-là, qu'on a quand même... on n'est vraiment pas du tout content d'avoir été victime de cet accident nucléaire qu'on n'a pas voulu, on n'a pas voulu ça chez nous, etc. Et en même temps, c'est Monsieur Ono qui me dit, il faut reconnaître que ça nous a boosté, ça nous a obligé à nous mettre ensemble et on a appris des tas de choses et voilà. Et donc pour moi, il y avait une gageure à pouvoir. C'est pas le pays des bisounours, hein. C'est pas les gens ont été malheureux, voilà, ont connu des grosses difficultés. Il y a eu des drames, évidemment, mais il y a eu aussi des choses qui se sont des rencontres, voilà. Je pense que cette disposition là dont tu parles, elle a été forte pour les gens et ils l'ont signifié à plein de moments, quoi.
Parce que avec ton terrain et avec la manière dont tu vas nous parler par une langue travaillée. Tu es anthropologue, mais la question de la langue, la question du récit est très importante pour ton travail. Et c'est pour ça que ce livre est aussi épais, c'est qu'il te permet de rendre compte au mieux, au plus juste par la langue de ce terrain et de ce que c'est de vivre là à Toa avec les personnes que tu as rencontrées, dont on nous fait partager l'expérience. Et on peut faire le lien avec la catastrophe bioclimatique qui a surgi petit à petit, qui est radicalement différente de la catastrophe de Fukushima, mais néanmoins quelques petites analogies qu'on peut effectuer, c'est-à-dire que on voit bien que la catastrophe bioclimatique, elle transforme nos lieux, elle transforme le local, le lieu que nous habitons. Et on a ce terrain d'expérimentation, notamment à Toa, où les habitants sont obligés sans cesse d'actualiser le lieu, y compris de ce que tu nous dis de Monsieur Ono, qui peut-être voit, perçoit différemment la forêt et se dit « Ah, là, peut-être qu'il va falloir aussi renouer du lien avec cette forêt à l'occasion de cette catastrophe. » Comment tu perçois cela entre ton terrain qui... un terrain, encore une fois, que tu n'as pas choisi, c'est presque l'inverse qui s'est produit, c'est presque devenu une obligation parce que tu enquêtais déjà, tu faisais des enquêtes d'anthropologie au Japon et la catastrophe est survenue comme ça. Mais là, on peut lire... Enfin, moi, j'ai lu ton livre aussi comme... une leçon d'apprentissage pour le futur, qu'est-ce que ça va produire pour nos lieux d'habitation, la catastrophe bioclimatique, et comment on peut avoir affaire à une actualisation sans cesse de notre lieu d'habitation.
C'est une énorme question. À un moment donné, M. Ono m'a dit il ne veut pas faire modèle. Son ambition est pas du tout ce à quoi ils se sont efforcés toutes ces années, lui et ses amis, ses collègues, etc., soit constitué en modèle. Et au contraire, je dirais que c'est un peu là-dessus que je termine dans le livre. Au contraire, une des leçons qu'il me donne, parce que on devient amis, et qu'il me dit bah peut-être un jour chez vous il y aura aussi une catastrophe nucléaire. Et la leçon, c'est que quand ça nous arrivera, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il faudra qu'on refasse l'enquête nous-mêmes de bout en bout comme ils l'ont fait. Donc on ne pourra pas s'adosser entièrement sur l'expérience qui a été celle des gens de Toa, et il faudrait parler du village d'à côté, puis du village d'à côté, puis du village d'à côté, pour régler le problème qui sera le nôtre, voilà. Qui sera toujours le nôtre. voilà, et qui nous obligera vraiment, sous une forme quasi contractuelle, à faire l'enquête qu'ils ont faite et à reprocéder à tous les... redescendre dans chacun des liens, analyser ce que valent les liens pour nous avec nos espèces de légumes, nos espèces de fruits, nos espèces d'arbres, notre terre, notre climat, etc., etc. Donc la leçon, c'est pas une leçon globale. C'est pas une leçon qui vaut pour toutes. Et pour moi, ça a été aussi très important d'entendre ça et de le respecter, de l'honorer dans l'écriture même du livre, qui est tout sauf, il n'y a pas de montée en généralité, je fais pas de raccourcis, il n'y a pas d'index. Le nombre de personnes en fait dont il est question, dont je raconte l'histoire dans le livre, en fait c'est quelques-unes. C'est Atowa, mais c'est même pas Tutowa. Et donc il n'y a pas de représentativité, je ne recherche pas ça, mais aussi parce que toute la qualité de l'enquête, des enquêtes que eux mènent, me conduit, moi, m'invite à être exactement à cette échelle-là si on veut comprendre à Toa, il faut descendre à Toa, c'est vraiment à cette échelle-là que ça se comprend. Et on ne pourra pas remonter d'un coup. Voilà. Et donc, s'il y a une leçon sur ce qui concerne les changements climatiques, etc., c'est vraiment, en tout cas, que certaines choses ne peuvent pas être pensées dans leur globalité, ne gagnent pas à être pensées dans leur globalité, qu'elles vont résister. Et en tout cas, là, pour cette catastrophe-là, c'était vraiment une leçon aussi, de dire une catastrophe nucléaire ne va pas ressembler à une autre et qu'il y a des formes d'apprentissage qui ne vont pas pouvoir se transmettre.
J'aimerais qu'on termine par l'épilogue, qui est très très beau, parce que quand tu parles des habitants que tu as rencontrés à Toa, on peut bien entendu se dire, mais pourquoi ils continuent à vivre là? Et ils sont sans doute inconscients du danger qu'ils ont là à y vivre. Et là, tu as une formule qui est merveilleuse, qui est très éclairante. Tu écris l'impossibilité même de pouvoir être inconscient à leur sujet. C'est-à-dire que les personnes qui restent, qui habitent, ils ont en eux l'impossibilité même de pouvoir être inconscient.
Ah, oui, c'était branché.
Il y avait vraiment une sorte d'ambiance vraiment pesante et d'un coup, je sais pas, ça s'est désamorcé.
Mais oui, en fait, ce qui est assez stupéfiant avec son travail, c'est de voir sur place qu'il y a toujours de la vie, en fait. Il y a toujours de la vie humaine, notamment, et que ces radionucléides, elles nous jouent bien des tours. Elles jouent bien des tours aux humains, elles jouent bien des tours aussi aux plantes, aux animaux, aux minéraux, parce que c'est fluctuant. Un jour, c'est là, un autre jour, c'est ailleurs.
Comme dans ton nez, en fait.
Voilà, c'est ça. À un moment donné, tu mouches, pouf, ça y est, t'as évacué quelques radionucléides et ça va beaucoup mieux. Des fois, ça peut être dans le même endroit, localisé quelque part, et puis juste à côté, c'est bon, c'est tranquille. Et puis là, dans cet endroit-là, par contre, c'est un point plus chaud. Ouais, c'est très, 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 très étonnant. Et son enquête vraiment permet de faire ce type d'apprentissage, en fait. Alors c'est difficile d'en tirer des conclusions ou des conséquences. Néanmoins, ça permet de faire rencontre avec des radionucléides issus d'un réacteur. Karl ?
Eh bien, on va finir avec de la techno qui ne vient pas du Japon. Et ça ne sera pas Radioactivity. Voilà, ça, c'est un morceau que vous entendrez dans l'émission suivante. Et je spoil.
Bravo Jean-Marc, t'en veux, c'est de la bonne. Mais juste
lui,
avant
au moins,
nous...
il suit.
Alors, Karl, qu'allons-nous écouter?
Moi, j'avais prévu de passer un extrait d'un album de Hieroglyphic Being, un artiste de Chicago, qui a commencé sa carrière en 2008 et qui en est à 65 albums. Donc, c'est plutôt conséquent. Et il est plutôt dans l'afrofuturisme, dans la techno, dans la musique expérimentale. Enfin, c'est une offre, une proposition musicale foisonnante. Et cet album, sorti sur un label norvégien, s'appelle Dance Music for Bad People, donc c'est plutôt techno. Et on va écouter I'm in a Strange Loop. Accrochez-vous.
Et on termine l'émission des Fictionnaires. Ainsi, on se retrouve le mois prochain. Youpi,
continuer à écouter Radio Campus Orléans juste après. T'en veux, c'est de la bonne avec Jean-Marc qui commencera l'année 1947. We'll be right back.